infiniment. Et place au débat sur le TAFTA, un nom doux pour un accord commercial transatlantique dur à avaler, semble-t-il, qui se négocie en ce moment même. En jeu, l'emploi, beaucoup d'emplois et l'accroissement de nos exportations au prix, disent ses opposants, de notre souveraineté nationale, des appellations géographiques protégées et des normes environnementales et sanitaires. On en débat du TAFTA après la mise au point de Sandrine de Calvez.
Depuis 24 heures, ces deux-là ne se quittent pas. Une complicité affichée ce matin encore dans les allées de la foire industrielle de Hanovre. En visite en Allemagne, Barack Obama est comme chez lui.
C'est une occasion de dire à tout le monde de venir ici et acheter Made in America.
Barack Obama, un président VRP, venu en Europe défendre l'accord de libre-échange transatlantique. Le TAFTA, encore appelé TTIP, est en négociation depuis 3 ans. L'idée est de créer une énorme zone commerciale entre l'Europe et les États-Unis. Cela représenterait la moitié de la richesse mondiale. Baisse des frais de douane, harmonisation des normes, les échanges seraient facilités. Sauf que ce projet inquiète. En Allemagne, Barack Obama a été accueilli par des manifestations.
Les aliments génétiquement modifiés arriveront probablement sur le marché européen avec cet accord.
Il va tirer vers le bas les normes environnementales, les normes sociales. Cela va toucher directement les plus faibles.
L'accord de libre-échange était au cœur de la rencontre USA-Union européenne qui s'est tenue cet après-midi. Projet risqué ou opportunité à saisir. Depuis 30 ans, la mondialisation a multiplié par 9 les échanges commerciaux et a sorti des millions de personnes de la misère. Pourtant, elle continue de faire peur. L'Europe a-t-elle plus à perdre ou à gagner? Le grand marché mondial menace-t-il son identité?
Bonsoir à tous les trois. Frédéric Vial, bonsoir. Vous êtes économiste, membre d'Attaque et du collectif Stop TAFTA. Je pourrais m'arrêter là parce que ça semble assez clair. Mais quand même, le libre-échange, de votre point de vue, pose la concurrence comme principe général et ça se traduit inévitablement, selon vous, par une baisse des salaires et des dépenses sociales et publiques. Et voici le manifeste contre les accords transatlantiques. Ça tombe à pic que les éditions Éric Bonnier viennent de publier et c'est l'objet de votre plume. Vous êtes économiste, je ne l'ai pas dit. Bah si, vous êtes économiste.
Juriste, en fait.
Et juriste.
Voilà, surtout juriste.
Surtout juriste. Evelyne Fabry, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes spécialiste des relations entre l'Union européenne, des relations extérieures de l'Union européenne, plutôt. Selon vous, l'ouverture des échanges développe des économies et crée des emplois au niveau planétaire. Ça s'appelle le côté euro de la mondialisation, j'imagine. À côté de vous, Sébastien Jean, bonsoir. Vous êtes directeur du CEPI. Qu'est-ce que c'est ?
Centre d'études prospectives et d'information internationale. C'est un centre public de recherche et d'expertise sur l'économie internationale.
Et vous considérez que le libre-échange a fait ses preuves comme porteur, vecteur de croissance commerciale et pourtant la mondialisation suscite énormément d'interrogations et de doutes. On va en parler tout au cours du débat, mais d'abord une question.
Avec la fameuse question de l'opacité, la voici. Pourquoi si peu de transparence? Est-ce pour cacher l'activité des lobbies? Elvire Fabry, on a appris que nos députés pouvaient consulter les textes, mais dans certaines conditions, ça se passe en anglais, dans une salle fermée, sous surveillance et sans téléphone. Est-ce que c'est normal?
Alors, il faut tenir compte du fait qu'on part de règles traditionnelles de négociation des accords commerciaux qui étaient en effet très opaques. Mm-hmm. Ça se passait beaucoup entre négociateurs. Et comme on est dans le cadre d'une négociation d'un accord d'un nouveau genre, où il y a un volet de coopération réglementaire qui est quelque chose de très nouveau, qui ne concerne pas simplement les tarifs douaniers, l'ouverture des marchés, mais qui concerne beaucoup plus directement tous les consommateurs, parce que ce sont les normes de protection qui sont en jeu. La Commission a changé sa position, rend disponible beaucoup plus de documents et c'est maintenant les textes consolidés où il y a les positions américaines et européennes sont accessibles dans ces chambres de lecture.
Mais c'est vrai que c'est très démocratique ces conditions d'accès.
Dans une négociation, on ne peut pas tout mettre sur la table. Donc c'est vrai que là, ces chambres de lecture maintenant sont rendues accessibles aux parlementaires européens, à tous les parlementaires nationaux. Maintenant, il va falloir aller regarder, qu'ils prennent le temps d'aller regarder. Et en effet, ce sont des textes très techniques, complexes.
Bonne nouvelle, Frédéric Vial. Il va falloir cliquer, c'est fini.
Il va falloir qu'il y aille plusieurs fois dans la chambre en question, parce que effectivement, les textes sont très très techniques. Et puis en même temps, ils peuvent même pas prendre de photocopie, ils peuvent même pas rien faire de ce genre. Alors évidemment, on nous dit que c'est les Américains qui demandent ça, c'est pour nos positions. Mais moi, je retiens une chose de ce qui vient d'être dit et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est bien question de normes, il est bien question de coopération réglementaire. Et c'est bien le problème de ce type d'accord. C'est que ce type d'accord, en fait, est un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'on sait quand
donner
il
est
donné à donner aux entreprises transnationales, très franchement. Puisque la coopération réglementaire, c'est tout simplement la possibilité, dans l'avenir, lorsque l'Union européenne voudra, par exemple, prendre une réglementation sur n'importe quoi, il faudra passer par le crible d'un forum de coopération réglementaire, c'est-à-dire de membres nommés par les États de l'Union européenne, les États-Unis ou le Canada, il y a aussi un truc sur le Canada, avant de pouvoir prendre une réglementation. Ce qui fait que dans l'avenir, si par hasard l'Union européenne veut réglementer les perturbateurs endocriniens, comme elle a dit qu'elle le ferait depuis longtemps, il faudra avant qu'elle passe par le forum de coopération réglementaire qui lui-même demandera son avis aux fabricants de perturbateurs endocriniens.
On voit une galère administrative et bureaucratique. Mais attendez, on va démarrer avec les droits de douane, non?
Non, avec ces entreprises transnationales dont vous parlez, qui sont effectivement partie prenante de cette négociation. Et c'est notre chiffre du jour, c'est 53. Parmi les 100 plus grosses entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, 53 sont des multinationales américaines. Alors on se dit, après tout, c'est jamais que la moitié, sauf qu'il n'y en a que 15 qui sont européennes, ce qui donne a priori le sentiment, Sébastien Jean, d'une forme de déséquilibre entre la puissance américaine et des Européens qui seraient en position de faiblesse. Est-ce que cette domination commerciale, qui est la réalité du business, elle se retrouve dans la négociation? Est-ce que les Américains sont en position de force?
C'est curieux que vous reliez ce point et qu'il revienne finalement de façon continue dans les discussions sur cette négociation, parce que dans le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Europe, il y a un très fort excédent des Européens, c'est eux qui sont fortement excédentaires par rapport aux États-Unis.
Là qu'on vend plus aux Américains que les Américains nous vendent.
Voilà. Si on regarde même l'évolution des parts de marché au niveau mondial depuis le début du siècle, elles ont baissé de 40% s'agissant des États-Unis. Pour l'Europe, elles ont baissé d'à peine 10%.
Mais là, vous apportez un argument supplémentaire aux gens qui disent les Américains ont envie que les règles changent.
Ils ont un cheval de Troie pour pouvoir nous vendre.
En déficit commercial.
On peut l'interpréter comme ça. Ce que je dis surtout, c'est qu'il ne faut pas se voir comme étant un petit poussé face aux États-Unis d'un point de vue commercial. L'Europe est la plus grande puissance commerciale au monde, si on prend le commerce de biens et services, et assez nettement. Ensuite, quand on va sur le plan politique, effectivement, les choses se passent différemment et le partenariat géostratégique est une dimension importante de cette négociation. Donc là, effectivement, il y a les États-Unis qui sont beaucoup plus unis, beaucoup plus focalisés et qui ont une puissance politique et militaire beaucoup plus grande que celle, et une cohésion plus grande que celle de l'Europe.
Oui. Et je dis, Fabrice, si on en vient aux exemples concrets que tout le monde cite, le bœuf aux hormones, le poulet lavé au chlore, est-ce qu'il faut tordre le cou de ces canards ou est-ce que c'est vrai ce qui se prépare là? Ces exemples-là.
Oui, sur ce type de questions, le poulet au chlore, les OGM, qui sont émergés très rapidement dans le débat, dans le lancement de cette négociation, la commissaire au commerce a été très claire. Ce qui était interdit jusqu'à maintenant sur le marché européen ne serait pas davantage autorisé à l'issue d'une ratification de cet accord. Ça nous renvoie à la question de la coopération réglementaire.
Donc, l'Europe n'aura pas acheté
les États-Unis ne pourront pas exporter de poulet lavé au chlore.
Non, ce qui est envisagé, c'est un travail de coopération réglementaire à niveau d'équivalence de précaution.
Le principe de précaution.
Voilà, le principe de précaution.
Mais concrètement, ça se traduit comment?
Ça se traduit par le fait qu'actuellement, quand on vise un niveau de précaution équivalent, mais qu'on a une formulation de cette précaution, une administration de cette précaution qui est différente, les entreprises doivent passer par un système de duplication, de respect des normes, de certification, de contrôle, et que ça pèse très lourdement pour les entreprises qui cherchent à exporter.
Donc on simplifie.
Donc, à ce moment-là, s'il y a une équivalence, si ça a été reconnu par les régulateurs comme étant équivalent, on peut mettre en place un système de reconnaissance mutuelle ou d'harmonisation qui allège ces coûts. Mais ça ne concernera pas toutes les normes. Parce que quand il y a un écart trop important, rien ne sera fait. Et en ce qui concerne la question des normes...
Ah, votre voisin écarquille des yeux grands comme des soucoupes.
Oui, parce qu'il y a un engagement qui est clair là-dessus de la Commission européenne. Ça ne se fait qu'à niveau équivalent. C'est l'intérêt des Américains eux-mêmes, parce qu'ils ont des craintes aussi.
L'intérêt des Américains, quel est l'intérêt?
Ils ont des craintes sur nos fromages, sur qu'ils ne veulent pas importer davantage sur leur marché. Et pour ce qui est des normes à venir, ce qui est envisagé, c'est plus d'information et de coopération. Mais ça n'est pas de préempter une décision européenne.
Frédéric Gall, vous êtes rassuré, on continuera à faire du camembert au lait cru.
Moi, je veux bien croire au Père Noël, hein. c'est pas un problème. Mais là, je veux dire, ce que j'entends, c'est quelque chose qui est très très loin de ce que je lis, par exemple, dans mes textes. Et il y a des textes. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Mm-hmm. Mais il y a un autre texte qui est entre l'Union européenne et le Canada, qui lui est un texte terminé, qui porte exactement le même type de disposition et qui a été fait en fonction d'un mandat qui est extrêmement proche de celui qui a été donné à la Commission pour négocier. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement que la coopération réglementaire, je vais être d'accord avec Mme Fabrice, ça va peut-être vous étonner sur un seul point, c'est que dans le texte, il n'y a pas une seule fois Union européenne-Canada, ou il n'y a pas une seule fois où Union européenne-États-Unis, il n'y aura pas non plus le mot OGM, le mot bœuf aux hormones, etc. Ouais. Non, il y aura simplement le moyen de faire en sorte que, à travers le forum de coopération réglementaire et l'intervention massive et institutionnalisée des lobbies, on arrive par la reconnaissance mutuelle des normes à un abaissement nécessairement généralisé
de ces dites normes.
De ces dites normes. Et je ne vois pas quel serait autrement l'intérêt de ce type d'accord. Pourquoi est-ce que les États-Unis, pourquoi est-ce que...
Créer de l'emploi, peut-être, ou alors, favoriser...
Pour en parler, créer de l'emploi, il y a eu tellement de choses.
Ah ben on va en parler tout à l'heure. Alors, restons sur les normes, non, Sébastien Jean?
Non, mais écoutez, moi je trouve...
Un abaissement général des normes et des...
D'avoir vision de hiérarchiser les choses et de dire que ce n'est pas la politique commerciale de fixer les institutions réglementaires importantes. Ce que je déplore, c'est qu'on parle de ce... Toujours la discussion autour de ce traité se fasse à coup de caricature et de fantasmes.
Donc, parce Madame Caricature et Monsieur Caricature...
Non, ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on va avoir une course vers le bas en termes d'institutions et de réglementation, la Commission... a bien spécifié depuis longtemps et très clairement à multiples reprises que ce n'était pas ça qui était envisagé, qu'il n'y aurait jamais...
Comment expliquer des gens qui veulent préserver les AOC ou les appellations géographiques, protéger les zones géographiques protégées ? Comment expliquer
L'accord essaie de protéger, enfin disons, a comme agenda de protéger les indications géographiques. On parlait de l'accord sur le Canada. Il n'y a aucune perspective de près ou de loin que le Canada se mette à nous vendre de la viande aux hormones ou du poulet rincé.
Et pour reprendre un exemple qui a été donné dans un quotidien du matin ce matin, le brie de Meaux qui serait produit dans le Wisconsin et qui serait réexporté en Europe sous l'appellation brie de Meaux, mais ça sera fait dans le Wisconsin aux États-Unis, c'est possible ou pas?
On voudrait avoir des réponses concrètes. Ce qu'on veut, notamment ce que la Commission essaie, ce que les Européens veulent obtenir par un accord comme celui-là, oui, c'est une meilleure défense de leurs indications géographiques. Protégées.
Voilà, ce n'est pas les brader, mais les défendre.
De limiter l'abus de ce type d'appellation, l'abus des champagnes de Californie.
Donc la presse, en l'occurrence, là, je mémorise
ce point est marginal.
La presse se trompe.
Ce point est marginal. Ouais. Dans l'accord Union européenne-Canada, on trouve aussi l'augmentation des quotas sur 7 ans jusqu'à 75 000 tonnes de porc et, je crois, 45 000 tonnes de bœuf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des chiffres très importants par rapport à la production européenne. Ça veut dire tout simplement que l'Union européenne, dans l'accord Union européenne-Canada, a bradé l'agriculture parce qu'elle a permis une ouverture et une augmentation des quotas dans une économie qui est déjà extrêmement agricole, qui est déjà extrêmement fragile. Il suffit, 75 000 tonnes de porc, ça suffit pour abaisser considérablement, pour fragiliser ce secteur de l'économie. Et ensuite, on nous dit, il faudrait voir ce que nous dit la Commission.
Non. Il faut qu'on avance, Frédéric Valle. L'emploi, oui. On en parlait à l'instant, enfin, on aurait voulu en parler. Donc, parlons-en de l'emploi.
Et vous le disiez, beaucoup de choses ont été dites. On a entendu des projections chiffrées étrangement précises. En 2013, par exemple, le Premier ministre britannique David Cameron déclarait que le TAFTA créerait 2 millions d'emplois de chaque côté de l'Atlantique. Le commissaire européen en commerce, lui, il était un peu plus vague. Il parlait de plusieurs millions d'emplois. Et ce sont donc des chiffres très optimistes qui ont été remis en cause, notamment par une étude américaine très sérieuse qui avait conclu que le TAFTA pourrait détruire 600 000 emplois dans l'Union européenne d'ici 2025, dont 130 000 en France. Et puis on a également un précédent avec ce qui s'est passé après l'ALENA, donc l'accord qui a créé une zone de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. C'était en 1994. À l'époque, Bill Clinton prévoyait la création de 20 millions d'emplois. C'est pas du tout ce qui s'est passé. 10 ans après, 900 000 Américains ont perdu leur emploi, et encore plus au Mexique. Frédéric Vial, est-ce que le TAFTA, c'est plus de chômage, et notamment dans l'agriculture?
Alors, notamment dans l'agriculture, ça c'est une certitude, parce que là, il y aura une déstabilisation telle de l'agriculture que forcément, on va aller vers une concentration et donc une destruction d'emplois dans l'agriculture. Maintenant, pour les autres secteurs, eh bien écoutez, je constate moi que toutes les études qui ont été faites par la Commission sont des études au doigt mouillé, qui sont toutes contestées. Le CEPR aussi, vous avez celle-ci.
C'est quoi le CEPR, pardon
Le Centre économique pour la recherche, qui est financé par les banques et à qui la commission avait demandé en toute indépendance de faire une étude et qui nous avait prédit que ça allait créer X centaines de milliers, on ne sait plus bien exactement.
Elvire Fabry, peut-être que vous savez.
Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a maintenant, on dispose à peu près d'une douzaine d'estimations qui ont été faites par... c'est vrai qu'il y a eu les études commandées par la Commission européenne, mais il y a toute une série d'instituts, dont le CEPI, qui a mené des études et des études indépendantes, qui vont dans la même direction de bénéfices à la fois pour l'Union européenne et pour les États-Unis. La fameuse étude que vous évoquiez venant des États-Unis, il se trouve que c'est un étudiant, c'est un doctorant, il est européen, Et il a utilisé un modèle qui a été macroéconomique, qui a été décrié par...
Donc en résumé, c'est bon pour l'emploi, c'est meilleur pour l'emploi ou pas?
Oui, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les PME. D'abord pour les PME, parce que cette coopération réglementaire, les bénéfices de cette coopération réglementaire, ils sont proportionnellement plus avantageux encore pour les PME, pour lesquelles, pour le moment, ces barrières non tarifaires ont un coût prohibitif pour l'exportation. Mais c'est bon, c'est un bénéfice d'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un objectif aussi de viser à élever le niveau des normes. Ce n'est pas simplement travailler équivalent, c'est si on peut aller, c'est élever le niveau des normes.
Oui, dans cette négociation, c'est la Commission européenne qui est à la manœuvre dans la discussion avec les Américains, mais les États européens sont évidemment concernés, parce qu'ils vont devoir chacun ratifier le projet d'accord s'il y a, et notamment la France. Or, on a cru comprendre, il y a une dizaine de jours, dans l'émission qu'il a faite sur France 2, que François Hollande était assez réticent sur cette négociation, voire même qu'il n'excluait pas que la France se retire. Mais comme ce n'était pas forcément très clair, on va le réécouter.
La France, elle a fixé ses conditions.
La France, elle a dit, si il n'y a pas de réciprocité, s'il n'y a pas de transparence, si pour les agriculteurs il y a un danger, si on n'a pas l'accès au marché public, et si en revanche les États-Unis peuvent avoir accès à tout ce que l'on fait ici, je n'accepterai pas.
Oui.
Alors Sébastien, j'en crois comprendre que la France n'est pas très contente, mais est-ce qu'on est l'État est réticent sur ce sujet? On a le sentiment que les Allemands, les Italiens ou les Anglais, eux, ils sont plutôt favorables à cette négociation. On est isolé.
Pas les chefs d'État.
Je crois qu'on est dans une phase critique dans cette négociation parce que l'administration américaine voit déjà le terme de son mandat et finalement le président Obama et son administration se disent, étant donné le climat de la politique de la campagne présidentielle américaine où la plupart des candidats, enfin où tous les candidats sérieux sont contre l'accord de libre-échange, il faut conclure maintenant le plus
possible. Donc eux ils poussent. Et du côté européen?
Du côté européen, les Français en particulier, je pense, ont peur d'un accord qui serait maintenant sur un périmètre réduit et centré sur les droits de douane. Et je pense qu'il y a aussi une démarche pour éviter qu'on ne conclue rapidement un accord sur ce qui serait essentiellement à supprimer les droits de douane, parce que la protection de part et d'autre, elle n'est pas très élevée, mais elle est quand même un peu plus élevée en Europe qu'aux États-Unis, et en particulier dans l'agriculture, et on sait que notamment il y a des secteurs sensibles, l'élevage en particulier en France.
Il y a déjà un
oui. Voilà.
On l'a vu il y a quelques
et
mois.
Et donc la France essaie, il me semble, de dire clairement, nous ne voulons pas d'un accord qui se focaliserait là-dessus. Il faut qu'il soit plus large, il faut qu'il inclue les autres volets, il faut qu'il y ait une ouverture des marchés publics américains, une ouverture d'un certain nombre de secteurs de services américains, et puis qu'il y ait une discussion qui avance sur les normes, parce qu'il y a pour aussi donner corps, donner substance à ce partenariat géostratégique et à ce partenariat sur les questions réglementaires de part et d'autre de l'Atlantique.
Alors vous évoquez des chefs d'État qui sont pour, qui poussent, Barack Obama qui pousse aussi pour contrer l'influence de la Chine. En Europe, il y a des maires, des édiles qui se prennent un peu pour Don Quichotte, luttant contre les moulins à vent. Il se trouve que la maire de Barcelone répond à cette caractéristique. Elle s'appelle Ada Colau et regardez, son portrait a été réalisé par Damien Cabrinsky dans Bang Bang.
Au centre de l'histoire et mérite forcément quelques déboires. Alors que Barack, Angela, François, David et Matteo se claquent la bise à Hanovre, la maire de Barcelone, elle, résiste encore et toujours. Alors Ada Colau est-elle celle qui réussira à faire capoter le traité de libre-échange? Élue en juin dernier avec le soutien de Podemos, l'ex-militante sociale se croit plus forte que 5 chefs d'État réunis et décrète officiellement la capitale catalane zone anti-tafta. Faites Don Quichotte contre les moulins à vent, elle se bat. On savait déjà que Barcelone réclamait l'indépendance de la Catalogne. Aujourd'hui, Ada et ses amis partent en guerre contre le monde entier. La semaine dernière, elle a accueilli les représentants d'une quarantaine de villes européennes pour dire non, non, non à ce traité qu'elle juge injuste, la globalisation. pas question. Un combat qu'elle entame au début des années 2000. En 2003, elle participe aux manifestations anti-G8 et se mobilise contre la guerre en Irak. Fondatrice de la plateforme des victimes du crédit hypothécaire, elle devient la madone des expulsés. Sa notoriété s'accroît, l'ex-actrice de séries populaires devient un symbole en Espagne. Avec elle, un autre monde serait possible. C'est en tout cas ce qu'elle veut faire croire grâce à des mesures chocs. Elle baisse son salaire mensuel en tant que mère de 10 000 euros. Elle dénonce un tourisme barcelonais devenu, selon elle, hors de contrôle. Emportée par son élan, Ada voulait même créer une nouvelle monnaie propre à la ville de Barcelone pour permettre des transactions au niveau local. Mais pour le moment, pas de nouvel écu sur les Ramblas. La réalité met parfois à dure épreuve les belles idées. Alors face à Barack et ses amis, Ada fera-t-elle le poids et réussira-t-elle son pari?
Très rapidement, Frédéric Vial, est-ce qu'une ville aussi magnifique et grande que Barcelone, mais quand même, peut rester à l'écart de la mondialisation? C'est réaliste?
En tous les cas, ce mouvement-là des îles contre le TAFTA, il est non seulement à Barcelone, mais partout dans
l'Europe, etc.
Mais il y a aussi les PME allemandes qui ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord avec cet accord. Vous voyez, quand on dit qu'il y a un accord que ça va créer pour les PME, l'emploi, etc., personne n'y croit. Et là, en fait, il s'agit de changer le rapport de force. Puisque de toute façon, le débat n'aura pas lieu dans les institutions. Mais non, le débat n'aura pas lieu au Parlement européen. Comme d'habitude, on va avoir le gros bloc des libéraux et des conservateurs et le gros bloc des sociodémocrates qui, si donc on ne change pas le rapport de force à la base, va aller dans le sens de la ratification. Donc ça, ce que nous avons vu, c'est ce genre d'initiative pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas les seuls à quelques-uns à être pas d'accord, mais qu'il y a véritablement des forces importantes qui se dresse contre.
Guillaume Roquette, une dernière question.
Dire, Fabrice, est-ce qu'on est en train de voir émerger sur ce dossier du TAFTA des mouvements dans les peuples européens un peu du même type que celui sur les migrants, c'est-à-dire une forme de refus d'une mondialisation subie? C'est-à-dire, en gros, on subirait les importations américaines comme on subirait une entrée de migrants qu'on n'arriverait plus à maîtriser.
Une angoisse autour de l'identité, en d'autres termes.
Une chose est claire, c'est que les bénéfices de la mondialisation qui est à peine qui est là, c'est pas comme si on pouvait s'en sortir, oui, ou quoi. Les bénéfices, on en a engrangé une grande partie. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a affaire à une classe moyenne européenne, et d'ailleurs avec un écho côté américain un peu similaire, d'inquiétude sur l'évolution de cette interdépendance qui est créée, été créée par la mondialisation, et de savoir comment on va la gérer sur les années qui viennent, à un moment où il y a des puissances émergentes qui s'affirment.
Ça veut dire que ce mouvement qu'on croyait inéluctable, toujours plus d'ouverture des frontières, finalement pourrait revenir dessus avec l'élection aux États-Unis d'un président qui serait contre, et des mouvements en Europe aussi anti-mondialisation.
Il y a une combinaison de facteurs qui montrent vraiment un changement profond, je crois, depuis quelques années, en particulier en ce moment, vous l'avez dit, la campagne présidentielle américaine, on peut citer le Brexit aussi, le vote d'hier en Autriche, énormément de signes, finalement, effectivement, de réaction, de crainte par rapport à cette économie mondialisée, de demande de protection, de stabilité. Et je crois qu'on a parlé un peu tout à l'heure des aspects réglementaires dans cette négociation transatlantique. Il est très important, effectivement, que les pouvoirs publics y apportent des réponses adaptées. C'est-à-dire
et entendre cette angoisse.
Ouais. Et face de cet accord, s'il va au bout, un accord qui donne toute sa place à la protection, au maintien des normes, voire à leur élévation. C'est pas son rôle, l'accord.
C'était le dernier mot et c'est la fin de ce débat. On en reparlera sans aucun doute. Ne vous inquiétez pas, Frédéric Vial. Merci à tous les trois. En tout cas, l'émission continue avec Jean-Mathieu Pernin sur une opération chinoise rocambolesque de lutte contre l'espionnage et Xavier Mauduit évoquera les aventuriers.